au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Nous sommes mercredi, c'est le 25 février. J'espère que malgré cette neige, vous avez passé une belle journée à l'émission. Aujourd'hui avec Pierre Paquette, c'est la question de ce sondage Palace Data qui classe les libéraux là au deuxième rang, mais qui commence sérieusement là à chauffer le Parti québécois. Mathieu Lessard sera avec nous, président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. Il sera question de la coalition des partenaires en éducation. Aussi Mathieu Bélanger, notre analyste politique, avec qui on va revenir sur le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. Mais tout d'abord, l'annonce de la construction de deux écoles dans le Grand Joliette réjouit les autorités municipales là, qui attendent ces projets depuis des années. De toute évidence, le contexte préélectoral au Québec favorise ce genre d'annonce, il faut le dire. Et François Morin s'est entretenu là-dessus avec le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose.
Alors, Pierre-Luc Bellerose, deux bonnes nouvelles dans la même semaine concernant des écoles dans la région, une à Joliette et une du côté de Saint-Charles-Borromée. On va parler de celui de Joliette en particulier. C'est un projet qui était attendu quand même depuis un certain temps là, du côté de Saint-Pierre-Sud.
Oui, ben vous parliez là, de Saint-Charles-Borromée, effectivement, c'est 27 nouvelles classes. Du côté de Joliette, 23. On est sensiblement là, dans le même nombre là, d'élèves là, qui vont au-dessus de 500 là, qui vont fréquenter ces établissements. Effectivement, il y avait déjà eu un feu vert de la part du ministère. Par la suite, on avait mis les projets sur pause, là, question budgétaire. Donc, du côté de Saint-Charles-Borromée, on a déjà eu, là, du côté du ministère, l'aval pour l'aller de l'avant. Du côté de Joliette, on est en attente de la prochaine vague d'annonces. On est quand même confiants. Mais d'ici là, nous, on a rempli notre partie là, du contrat. Si je peux m'exprimer ainsi, on le sait avec l'adoption de la loi 40. Maintenant, on est dans l'obligation de céder un terrain au centre de services scolaires lorsqu'il y a la construction, l'implantation d'une école, d'effrayer aussi tous les coûts relatifs là, aux infrastructures, que ce soit la réalisation du boulevard, le bassin de détention, les infrastructures souterraines. Donc, tout ça est à la charge de la ville. Donc, quand les gens sont heureux de voir leur compte de taxes municipales baisser, dites-vous que c'est maintenant du côté de la ville. Donc, c'est vos taxes municipales là, qui sont à l'œuvre pour la réalisation de ces écoles-là.
Au niveau des infrastructures municipales du côté de Joliette, ça pourrait monter, la facture pourrait monter jusqu'à combien?
Ben, on perd, tu sais, le terrain appartenait déjà à la ville de Joliette, donc à ce moment-là, c'est un investissement de moins au niveau monétaire, mais en termes d'infrastructure, j'ai pas le chiffre exact, mais on parle en centaines de milliers de dollars, peut-être en millions de dollars, là, quand on compte la réalisation là, de toutes ces infrastructures. Il faut comprendre aussi, dans cette entente de partenariat-là, il y a d'autres projets qui viennent là s'ajouter, je pense notamment au bassin de détention qui est réalisé du côté là de Thérèse Martin sur la Douceur. Donc, on vient ajouter aussi, lorsqu'on ratifie ce genre d'entente-là, de part et d'autre, on vient ajouter des éléments là pour être, je vous disais, des bons partenaires. Parce que oui, il y a une obligation légale, mais les parties, que ce soit la ville, le centre de services scolaires, bon, on est en discussion, on est en pourparler, puis on essaie de trouver des terrains d'entente qui sont gagnants-gagnants. Donc, il y a des ajouts aussi d'autres projets là qui sont inclus dans l'entente en question.
Est-ce que l'implantation d'une école dans le secteur Saint-Pierre-Sud risque d'avoir des conséquences sur l'achalandage, la circulation? Il va falloir agir en conséquence?
Tout à fait. Bon, on le sait, il y a déjà des enjeux au niveau de la circulation. J'étais conseiller politique là, d'un précédent gouvernement, puis on était déjà là, adressé le problème autour de 2015. Il y a différents ministres qui sont succédés, qui sont venus sur place. Et puis, il faut dire aussi que même si Joliette arrêtait son développement résidentiel, il faut comprendre qu'il y a d'autres villes comme Saint-Paul qui utilisent ce tronçon-là. Là, avec l'ajout d'une école, on sait qu'on a déjà un CPE, puis on a là, la 158, la 31 à proximité. Donc, oui, il y a des enjeux au niveau de la circulation et de la fluidité, de la sécurité aussi. Ça fait des années qu'on l'adresse au ministère. On nous a proposé toutes sortes d'alternatives un peu farfelues. Je pense notamment au carrefour gélatoire aérien. Mais on n'a jamais eu là de sommes annoncées ou de véritables intentions. C'est plutôt des velléités de la part du ministère. Puis à chaque programmation routière, ben on revient bredouille, on revient déçu. Alors on poursuit les démarches, on poursuit là, les pressions auprès du ministère, mais on a le pont Barbé aussi qui est toujours là fermé en partie. On a Baudry qui est dans un piètre état. Donc il y a beaucoup d'enjeux au niveau du ministère des Transport. On poursuit là, les discussions puis les pressions, mais c'est pas simple avec eux.
Idéalement, dans le meilleur des mondes, la mise en chantier pourrait se faire quand même assez, entre guillemets, rapidement parce que effectivement les besoins sont là. On parle peut-être d'une entrée pour l'année scolaire 27-28.
Oui, c'est ce qui est effectivement là, planifié, tout de moins. C'est ce qu'on espère. On attend là, d'obtenir, comme je l'expliquais plus tôt, le feu vert à l'instar de Saint-Charles-Borromée, parce que le projet avait déjà été approuvé, avait été mis sur pause, là, comme celui de Saint-Charles et celui de Sainte-Julienne de mémoire. Là. Donc, on a bon espoir. Puis vous l'avez dit, parfois, il arrive des événements fortuits là, en année électorale. Donc, on mise aussi sur ce contexte favorable pour obtenir là, enfin de bonnes nouvelles de ce côté-là, parce que c'est un besoin qu'il y a là, pour nos communautés. On peut pas d'une part demander de densifier puis de créer du logement, puis d'autre part ne pas aller de l'avant avec la réalisation d'infrastructures ou la réfection d'infrastructures. Puis on le sait dans les différents rapports qui ont été publiés, malheureusement, nos bâtiments, nos établissements au niveau du centre de service scolaire, ils font pire de figure. On est parmi les pires en termes de désuétude. Je pense à l'école de Marie-Charlotte notamment. Il y a vraiment urgence d'agir puis aller de l'avant avec la construction de nouvelles écoles là, qui sont adaptées et qui sont adéquates là, pour nos étudiants, nos élèves. Là, c'est plus qu'une école, c'est un milieu de vie aussi. Donc, on presse le gouvernement là, d'injecter les sommes requises.
En terminant, puisqu'on a ouvert une porte sur la lenteur du processus décisionnel du côté du ministère des Transports, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'est au sujet de la route 343, il n'y a pas eu de développement.
Oui. Ben, j'ai une rencontre là, avec le nouveau directeur. Là, il y a eu une nouvelle nomination là, à la tête là, de la direction là, du ministère des Transports. Donc, j'ai une rencontre avec lui. Il y a des rencontres techniques qui se poursuivent. À court terme, là, j'ai pas malheureusement de bonnes nouvelles ou des développements là, qui pourraient nous laisser croire là, une intervention rapide. Par contre, comme je vous l'explique, on poursuit les démarches tant politiques qu'administratives. Puis j'espère que cette rencontre-là va être constructive et fructueuse. Je laisse la chance au coureur. On a un nouvel interlocuteur au ministère. Mais tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas une direction dédiée au territoire lanaudois, ça va s'annoncer complexe, tant au niveau financier qu'au niveau des priorités, au niveau des relations aussi, qui sont parfois difficiles. Donc, on va laisser la chance au coureur, mais à court terme, là, malheureusement, il n'y a pas de développement positif.
Voilà, c'était le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, avec qui François Morin s'est entretenu un peu plus tôt. Il est 16h15. Bon, on commence à avoir des détails concernant cet accident route 158 entre Crabtree et Saint-Jacques. C'est fermé dans les deux directions. C'est à la hauteur du chemin des Érables. Alors, détour par le réseau local, là, éviter la 158. Donc, entre Crabtree et Saint-Jacques. Si vous êtes dans le secteur de Crabtree, peut-être aller emprunter là, le chemin Sainte-Marie, chemin des Prés là, pour faire le détour. Et si vous êtes du côté de Saint-Jacques, rendez continuation là, à votre droite jusqu'au chemin Bourgeois, chemin Sainte-Marie. Et puis, vous allez aboutir du côté de Crabtree, 4e avenue. Vous retournez sur la 158. Voilà. Dans un instant, Mathieu Bélanger.
C'est le moment de célébrer en grand à la cabane à sucre Alcide Parent. Pour lancer la saison du temps des sucres, une soirée exceptionnelle vous attend le 28 février avec le groupe festif Les Campagnards. Formule souper spectacle, 60 $. Spectacle seulement, 37 $. Un bon repas, une ambiance chaleureuse et un spectacle entraînant pour une soirée mémorable. Réservez dès maintenant au 450-756-2878 sur la page Facebook et aussi possible sur le site Web. Réservez votre place dès maintenant. On vous attend en grand nombre à la cabane à sucre Alcide Parent.
J'ai un cappuccino pour Caroline.
Oui, c'est moi, Caroline. Hein? Vous l'avez écrit correct? 1K, 2L, 2N. Malade. Je vais te prendre un 649.
Prochain tirage, 36 millions.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 principal à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vous poussé des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps. Comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Lanaudière PM, politique internationale.
Le long, long, long et interminable discours sur l'état de l'Union qui a été livré hier soir par Donald Trump aura pas permis là, d'apprendre quoi que ce soit de nouveau là au sujet des tensions avec l'Iran et surtout au sujet des prochaines négociations sur l'accord de libre-échange avec le Canada et puis le Mexique. Et qui plus est, ben, selon notre analyste politique Mathieu Bélanger, Donald Trump a carrément versé là, dans l'ultra-partisanerie. François Morin lui a parlé un peu plus tôt.
Les discours de l'État de l'Union, ça a toujours été partisan, mais habituellement, on présente ça d'une façon qui se veut unificatrice. Le président, peu importe de quelle formation politique, va appeler le Congrès à adopter ou à ne pas adopter tel ou tel projet de loi. Ce que Donald Trump a fait aussi, mais il n'a pas appelé le Congrès vraiment à faire des choses, mais les démocrates spécifiquement, à quelques occasions, il a traité les démocrates de fous, de malades. Et ça, c'est pas un discours qu'on entend normalement dans un discours sur l'état de l'Union. On a vu plusieurs moments où les républicains faisaient des ovations debout envers Donald Trump, alors que les démocrates restaient assis. On voit ça normalement dans des discours sur l'état de l'Union. Mais il y a plus de moments où tout le monde se lève, ce qu'il y a très peu eu dans le discours d'hier. Donc, un discours très, très, très partisan, qui ne visait pas à établir des ponts entre les formations politiques, mais au contraire, à créer une division et à, du point de vue de Donald Trump, du point de vue des républicains, montrer comment que les républicains sont les gentils de l'histoire, les démocrates, les méchants, et donc, et pas juste des adversaires, mais les méchants, et donc pousser à ce que cet automne, lors des élections du mandat, ben la population comprenne le message, toujours du point de vue des républicains, que c'est cette formation politique-là qui peut amener l'Amérique à sa grandeur, plutôt sa grandeur à l'Amérique, et donc voter pour les républicains lors des élections du mandat. Est-ce qu'on va avoir convaincu des électeurs démocrates ou des électeurs indépendants? Probablement pas, parce qu'il y a peu eu d'annonces concrètes lors de ce discours-là. On recensait les mêmes vieilles histoires.
Bon, justement, rien sur les négociations prochaines pour le renouvellement de l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Rien non plus concernant les grands conflits qui perdurent sur la planète.
Non, effectivement, on l'avait mentionné ensemble précédemment qu'on attendait bien ce discours sur l'état de l'Union-là pour voir est-ce qu'il allait parler de nous. J'avais déjà émis l'hypothèse que c'est ce que nous, Canadiens, on allait attendre de voir, mais que ça se peut très bien que ça ne soit pas couvert. Ben, c'est effectivement ça qui s'est passé. Le Canada a été seulement mentionné en passant, en faisant référence donc à la médaille d'or au niveau des Jeux olympiques pour le hockey masculin. Il y a eu des mentions concernant, évidemment, les tarifs. Donald Trump aurait expliqué comment il pensait que les tarifs étaient une bonne chose, voire que ça pourrait combler l'économie américaine, les finances publiques, au point de plus avoir besoin d'impôts sur le revenu. Mais sans aller vraiment plus loin que ça, il a déploré un peu le jugement de la Cour suprême avec beaucoup de retenue. C'était un peu surprenant de la part de Donald Trump de le déplorer, mais sans plus, alors qu'il avait certains des juges de la Cour suprême devant lui par ailleurs. Donc, Concernant, par exemple, la CEUM, rien de mentionné. Concernant les autres dossiers internationaux importants, que ça soit l'Iran, que ça soit la guerre en Ukraine, que ça soit Israël, mentionné en passant, mais sans plus, aucune annonce. Donc, on reste sur notre faim. Évidemment, dans un contexte d'année électorale, avec les élections de mi-mandat cet automne, l'attention, c'est tout à fait normal, elle est beaucoup à être sur la politique interne des États-Unis. Souvent, les présidents vont quand même s'en servir pour faire quelques commentaires un peu plus importants sur la scène internationale. Donald Trump aura choisi de non, de ne pas aller dans ce sens-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas plus avancé pour savoir, par exemple, dans le plus immédiat, qu'est-ce qu'il veut faire par rapport à l'Iran que ce qu'on l'était hier ou avant-hier. Donc, ça va être d'autres dossiers à suivre.
On a glissé un mot sur les élections de mi-mandat. Une désapprobation de Donald Trump, ça pourrait avoir quoi pour conséquence pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien?
Les élections de mi-mandat, presque toujours, le parti présidentiel, peu importe c'est qui le président et de quelle formation politique, perd des plumes. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'attentes que ça soit la même chose qui se produise. En plus, avec, comme je le mentionnais, des sondages qui sont très défavorables envers les Républicains et Donald Trump. Qu'est-ce que ça peut changer si la Chambre des représentants bascule du côté démocrate, alors que présentement, c'est une faible, très faible majorité du côté des Républicains? Un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça peut changer si le Sénat bascule également, ce qui est moins probable du fait que c'est juste le tiers des sénateurs qui sont en élection? Ça, c'est normal, c'est prévu par la Constitution. Donc, il y a moins de chances, mathématiquement parlant, qu'il y ait une vague, un raz-de-marée dans un sens ou dans l'autre. À partir du moment qu'une des deux chambres bascule, il y a des pouvoirs d'enquête importants que la Chambre des représentants, par exemple, peut mettre de l'avant pour faire valoir, pour démontrer les éléments plus problématiques du gouvernement en place, ici du gouvernement républicain Donald Trump. Ça freine énormément l'agenda législatif. Présentement, on a vu que le Congrès, dominé dans les deux chambres par les républicains, suit vraiment la vague de Donald Trump, soit vraiment le courant mis de l'avant par Donald Trump. Si une des deux chambres bascule, ce courant-là, justement, va être arrêté assez net. Et les démocrates vont pouvoir essayer de au moins bloquer certaines initiatives au niveau tant financier que par des projets de loi des républicains, peut-être même mettre de leurs éléments de l'avant. Et aussi, plus politiquement, plus largement, ça va convaincre, comme ça a été le cas il y a 8 ans maintenant, lorsqu'il y a eu les premières élections de mi-mandat lors du premier mandat de Donald Trump et que ça avait moins bien été, mais il y a des langues républicaines qui s'étaient déliées, qui avaient commencé à critiquer Donald Trump. Et là, dans ce cas-ci, contrairement à la première fois, c'est pas juste que, puisqu'il perdrait l'élection de mi-mandat dans ce scénario hypothétique-là, des gens seraient plus à l'aise de critiquer, mais en plus, ça va être les 2 dernières années de sa carrière politique, du moins la présidence. Il ne pourra pas se représenter par l'après. La Constitution est assez claire là-dessus. Et lui-même le reconnaît la plupart du temps maintenant. Ça fait en sorte que là encore, il y aurait encore moins de crédibilité, encore moins de pouvoir d'influence sur les républicains ou même sur certains démocrates. La menace de Donald Trump serait beaucoup moins là. Et donc, on peut imaginer que d'autres républicains voteraient sur un certain nombre de choses avec les démocrates, possiblement, ou en tout cas, qui seraient beaucoup plus critiques envers Donald Trump aussi.
En terminant, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump, encore une fois, s'est vautré dans l'imprévisibilité?
Certains observateurs pensent que Donald Trump, qui se proclame lui-même adepte de cette stratégie-là, est un grand stratège. D'autres pensent que, bien qu'il se proclame de cette stratégie-là, il navigue au pif et sans vraiment grande stratégie. Dans son discours, il n'y avait pas vraiment de... C'est pas clair à quel point, justement, qu'il y avait une stratégie dans la non-évocation de certains éléments ou juste tout simplement qu'il n'avait rien à dire parce qu'il ne sait pas encore lui-même qu'est-ce qu'il veut faire. Mais certainement que pour les acteurs internationaux, que ce soit le Canada, le Mexique, concernant la CEUM, que ce soit l'Iran, que ce soit Israël, la Russie, l'Ukraine, les partenaires de l'Europe, etc. On regardait le discours avec beaucoup d'attention pour savoir est-ce qu'il va nous dire quelque chose. Il n'y a eu rien. On est encore au même stade aujourd'hui qu'au début de la semaine. Et donc, on continue à ne pas savoir qu'est-ce que les États-Unis veulent vraiment, à quel point on peut négocier avec les États-Unis, où ça vaut pas la peine tant que Donald Trump est président, parce qu'il peut changer d'idée n'importe quand.
Non, il change d'idée comme il change de chemise. C'était notre analyste politique, Mathieu Bélanger, les 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ouais, ben là, on vous parle tout d'abord de la route 158. C'est fermé carrément dans les deux directions entre le chemin Saint-Jacques et le chemin Archambault en raison d'un accident. Donc, c'est entre Crabtree et Saint-Jacques. Si vous êtes dans le secteur Saint-Jacques, le détour par le chemin Saint-Jacques, et là, je vois que c'est complètement congestionné sur le chemin Saint-Jacques jusqu'au chemin Archambault, là, en direction de Crabtree ou du village Saint-Pierre. Alors, prudence là, et patience si vous êtes dans le secteur. Bon, maintenant, 40 Est pour Charles de Gaulle, du côté de Montréal. Danse depuis un peu avant Marien, salle demeure là, jusque-là hauteur du boulevard Henri-Bourassa. Par la suite, ça va bien là, pour franchir la rivière des Prairies, secteur Repentigny, un petit peu plus nombreux là, à la hauteur du boulevard industriel. Sinon, ben, ça va relativement bien. Prudence entre la 343, secteur critique, il faut le dire, là, sur la 40, entre la 343 et la 131. Là, prudence dans le secteur. On signale de la poudrerie. Maintenant, pour ce qui est du pont Le Gardeur, accès facile au temps par Sherbrooke que par Notre-Dame 25 Nord. C'est dense depuis un peu avant la jonction avec la 440 et salle demeure jusqu'à l'île Saint-Jean. Et attention, là, dans Terrebonne, on ralentit une seconde fois à partir de la montée Masson. Et ce, jusqu'à l'avenue de l'Esplanade, là, du côté de Mascouche, où il y a eu accident. Donc, fermeture de deux voies sur quatre dans les deux directions. Alors, ça, c'est compliqué du côté de Mascouche. Et non seulement ça, mais là, il y a un autre problème. C'est lent 25 Nord depuis environ un kilomètre avant le chemin Saint-Philippe là, du côté de Mascouche. Et finalement, autoroute 640. Oui, pas si mal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pas si mal dans les deux directions entre la 25 et la 40. Oh, j'oubliais le pont Sophie-Masson. C'est lent à l'approche, mais la traversée quand même facile. Les nouvelles dans un instant.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement 398 $ plus taxes par mois sans aucun compte initial. Chez Joliette Nissan.
Dans la Naudière, on prend le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer, ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand.
Ici Catherine Barry et Tania Devillers, vos pharmaciennes propriétaires de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Avant de partir en voyage, pensez à préparer une trousse santé à apporter avec vous. Nous allons la personnaliser afin qu'elle convienne à vos besoins et aux risques de votre destination. Lorsqu'on voyage, il est également recommandé de s'informer sur les différentes maladies possibles. Nous pouvons vous prescrire un antibiotique pour la diarrhée du voyageur et un traitement préventif pour la malaria ou le mal aigu des montagnes. Et n'oubliez pas de mettre à jour votre carnet de vaccination. Nous pouvons vous prescrire et vous administrer les vaccins nécessaires.
Pour être bien conseillé, appelez-nous au 450-835-5071 ou venez nous voir en pharmacie au 185 rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, Joliette.com.
L'actualité de ce mercredi 25 février en manchette. Le chef péquiste remet les pendules à l'heure. Le PQ recule dans les sondages et les quincailleries Rivet sont vendues. Et tout d'abord, Pierre Jubinville, Éric Girard pique au vif Paul Saint-Pierre Plamondon.
Oui, ce qui a amené Paul Saint-Pierre Plamondon à le recadrer. Il affirme que la perspective d'un référendum coûte des centaines de millions de dollars au Trésor québécois et le chef péquiste, lui, le reproche de cultiver la peur. Louis Lacroix.
Éric Girard soutient que la menace référendaire fait augmenter les intérêts sur les emprunts du Québec.
Et comme on emprunte 40 milliards par année, ça fait 20 millions par année.
Une affirmation qui a fait bondir le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon.
Je pense qu'on essaie de créer en ce moment un climat de peur.
Selon lui, ce qui joue sur la cote de crédit du Québec, c'est bien plus la gestion caquiste. Il en veut pour preuve le budget de 2024.
On retrouvait un déficit budgétaire historique de 11 milliards de dollars.
De toute façon, dit-il, le Québec a bien plus à perdre en restant à l'intérieur du Canada.
C'est que le gouvernement fédéral endette le Québec de 15 milliards de dollars à chaque année.
Le chef péquiste veut s'affranchir du sentiment de peur.
Et c'est sur des bases mensongères.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Et par ailleurs, Pierre, le Parti québécois qui recule dans un nouveau sondage.
Oui, 4 points se retrouvent à 30 % des intentions de vote. C'est un sondage Palace Data qui a été publié pour l'actualité. Les libéraux de Charles Milliard sont deuxièmes à seulement 3 points du PQ avec 27 %. Le rédacteur en chef de QC 125 est chroniqueur pour l'actualité. Philippe J. Fournier ajoute que le projet souverainiste du PQ recule aussi.
Dans ce sondage, Palace mesure le plus haut niveau d'opposition à la souveraineté depuis que Palace sonde au Québec en 2023, donc ça fait 3 ans. 60 % des répondants disent qu'ils voteraient contre la souveraineté. C'est une hausse de 6 points en un mois. C'est bien au-delà de la marge d'erreur. 32 % voteraient en faveur.
Et bien entendu, les libéraux qui se réjouissent du sondage.
Oui, le nouveau chef Charles Milliard attribue sa performance, ou la performance plutôt de son parti, à son arrivée récente à la tête du parti.
Ça nous motive, c'est bien évident, mais c'est une prise dans le temps. Je pense qu'il est important. Je vous parlais de la prise de tension artérielle hier. Ce qui est important, c'est la tendance qu'on va observer. Mais c'est certain que dans les 12 derniers jours, je suis très content de l'enthousiasme que mon arrivée suscite. Mais on prend rien pour acquis, on est très humble par rapport à ça.
Il y a des médecins maintenant qui reçoivent des primes pour aucune prestation.
Il y a beaucoup d'argent quand on parle des médecins. Là, cette fois-ci, c'est les omnipraticiens qui reçoivent 3 primes pour des patients qu'ils ne verront même pas. C'est le Devoir qui révélait cette information ce matin, que dans des groupes de médecine de famille, des médecins exigent que des patients soient inscrits à leur nom, mais ils délèguent ensuite tous les suivis à des infirmières praticiennes spécialisées. À l'Assemblée nationale, le député péquiste Joël Arsenault a bien sûr questionné la ministre de la Santé, Sonia Bélanger.
Des médecins sont payés en triple pour des patients qu'ils ne voient pas. Alors comment la ministre de la Santé peut-elle justifier une entente où des médecins sont payés pour des patients qu'ils ne voient pas?
Une importante transaction dans le secteur des quincailleries.
Une entreprise de matériaux Pont-Maçon, que je ne connaissais pas du tout, c'est une entreprise de Valleyfield qui se porte acquéreur de 3 points de vente des quincailleries Rivet et Fils.
Tu l'appelles Pont-Maçon.
Oui.
J'avais compris Pau-Maçon.
Alors, les succursales dans notre région sont à Saint-Charles-Borromée, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Matha. Les matériaux Pont-Maçon indiquent que cette transaction s'inscrit dans la stratégie de croissance. La compagnie a 12 succursales et emploie 600 personnes au Québec et aussi en Ontario.
Et la construction d'une nouvelle école à Joliette implique des efforts financiers de la ville.
Oui, la ville de Joliette devrait investir massivement pour la construction des infrastructures nécessaires à l'implantation de cette école primaire dans le secteur de la rue Saint-Pierre-Sud, dans le secteur du carrefour du Moulin. On attend la conclusion de l'entente de partenariat entre la ville et le Centre des services scolaires des Samars pour en savoir plus. En entrevue à CFNJ Nouvelles, le maire Pierre-Luc Bellerose précise qu'il y aura des travaux connexes prévus dans l'entente.
Parle en centaines de milliers de dollars, peut-être en millions de dollars, là, quand on compte la réalisation là, de toutes ces infrastructures. Il faut comprendre aussi, dans cette entente de partenariat-là, il y a d'autres projets qui viennent là s'ajouter. Je pense notamment au bassin d'étention qui est réalisé du côté là de Thérèse Martin sur la Douceur. Donc, on vient ajouter aussi, lorsqu'on ratifie ce genre d'entente-là, de part et d'autre, on vient ajouter des éléments là pour être, je vous disais, des bons partenaires.
Bon, ben voilà. Merci, Pierre Jubinville.
Merci, bonne soirée.
Et comme dit l'adage, dans les petits pots, les meilleurs ont gants.
C'est pas mon cas.
Pas les pots maçons.
Bonne soirée.
C'est pas que Pierre fait pas du bon onguent, non. C'est parce que Pierre est très grand.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel. Lanaudière PM. Éducation.
Oui, il est 16h37, une organisation nommée Coalition des partenaires en éducation. Le Parti libéral du Québec et Québec solidaire le réclament de la prévisibilité dans le prochain budget Girard. Ils ont tenu un point de presse à Québec ce matin. François Morin en a discuté avec le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, Mathieu Lessard, qui, d'entrée de jeu, l'avoue, qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil.
Ben, je veux dire qu'il n'y a pas grand nouveauté. Parce que on dit souvent qu'enseigner, c'est répéter. Donc, force est d'admettre que les différents gouvernements, puis là, dans le cas présent, là, la coalition Avenir Québec, est aux prises avec, évidemment, tout le monde, minimalement, là, moindrement informé, est au courant avec l'état des finances publiques. État dans lequel on considère aussi les dépenses en lien avec les services sociaux là, comme étant une dépense et non pas un investissement, surtout en ce qui concerne notamment l'éducation, mais aussi la santé, là, sans faire fi des autres secteurs. Mais on est encore confronté aux mêmes colonnes de chiffres où il faut trouver une façon d'assurer un filet de sécurité autour des enfants, notamment en ce qui nous concerne. Mais le problème est que le filet qu'on tente de déployer via justement les consultations prébudgétaires puis le budget à venir, ben il est plein de trous. Mais on va demander à tous et chacun d'en faire encore plus avec moins. Puis c'est pas comme ça qu'on peut fonctionner dans le cadre d'un réseau, notamment en éducation.
On dit toujours que l'union fait la force, c'est donc dire que une coalition comme ça pourrait peut-être faire réfléchir le gouvernement, quoique le ministre Girard, encore ce matin, parlait d'un budget ultra prudent là, qui s'en vient.
J'ose espérer que la force du nombre aura un impact parce que à travers cette coalition-là, ce ne sont pas que des organisations syndicales. Il y a notamment des regroupements de parents qui, eux, les parents, là, subissent les contre-coups des coupeurs puis de l'accès difficile, voire absent des différents services. Il y a notamment des regroupements d'élèves ayant des besoins particuliers qui sont les élèves directement touchés par ces couples-là. Donc, les élèves qu'on qualifierait de plus vulnérables tant au niveau de leur développement physique qu'au niveau de leur développement intellectuel. Ce faisant, mais comme société, c'est pas ça le message qu'on veut envoyer. Et j'ose espérer que justement ce ras de marée-là puisse faire changer d'idée le gouvernement. On est à quelques mois des élections. Au-delà du sacro-saint, de la sacro-sainte équilibre budgétaire, ben, il faut quand même être en mesure d'avoir une perspective. Puis quand on planifie des choses, ben, ça nous prend de la visibilité et de la prévisibilité. Comme on fonctionne dans les écoles, c'est comme ça également. À défaut, ben on fonctionne à tâtons. Puis après ça, ben on se fait reprocher comme réseau, puis comme ensemble de partenaires, de pas bien faire notre travail, alors qu'on sait même pas si on va mettre le pied dans un trou éventuellement.
Québec qui confirme des investissements dans le béton cette semaine du côté de Saint-Charles-Borromée et Joliette, là, deux nouvelles écoles. C'est beau, mais ça prend plus que ça.
Oui, les infrastructures ont besoin d'amour, on a besoin de nouvelles infrastructures. Je vous dirais même qu'une école secondaire dans le Grand Joliette, ça fait longtemps que c'est demandé parce que les écoles primaires se multiplient, mais il n'y a rien pour accueillir les élèves du secondaire. Mais au-delà du béton, ça prend des ressources humaines pour prendre soin de ces gens-là. Fait que les travailleuses, notamment du CARE, là, hein, du prendre soin, que ce soit en santé ou en éducation, ben, c'est ces gens-là qu'il faut attirer. C'est oui par des bâtisses qui vont être au goût du jour, puis des conditions de travail matérielles intéressantes, mais comme vous l'avez mentionné, c'est au-delà de ça. Puis on parle, au final, de services à rendre à des enfants, puis je pense qu'il n'y a pas personne qui peut être insensible à ça.
Dans le communiqué émis par la coalition et les partis politiques, on parle de la pire rentrée scolaire depuis les 15 dernières années. Je comprends qu'on veut pas que ce soit encore pire l'année prochaine.
Effectivement. Lorsqu'on parle de prévisibilité, c'est une belle façon aussi d'attirer du personnel dans les différents réseaux. Ce faisant, en attirant du personnel, puis même en maintenant le personnel en place parce qu'il y a une lumière au bout du tunnel, on est capable d'amener les enfants ailleurs. Ben, si effectivement on n'est pas en mesure de vendre du rêve, ben on va être dans une situation où, malheureusement, l'attraction-rétention du personnel ne fera pas son travail et on vivra. Puis on se le cachera pas. Là, depuis le début des années 2000, on le mentionne au gouvernement qu'il y a des lumières rouges, mais ils décident d'attendre. Et là, ils sont confrontés à cette rareté de main-d'œuvre. Ce faisant, ben il faut prendre le taureau par les cornes et agir tout de suite, parce que préparer, former du personnel enseignant, bon an, mal an, c'est minimum 4 ans d'université. Donc, là, je ne parle que du personnel enseignant, je ne parle même pas des professionnels qui ont besoin des fois d'une maîtrise ou d'un doctorat, là. Donc, ça fait en sorte que pour servir le Québec, servir la jeunesse de demain, ben ça prend du temps. Et la prévisibilité, c'est la clé, notamment, pour attirer et maintenir le personnel.
En terminant, je voudrais revenir un peu sur le contexte préélectoral. Il y aura quand même des changements de garde à la CAQ, au Parti libéral. Rouba Ghazal qui fait son entrée comme chef dans une campagne électorale également. Le timing est bon pour sensibiliser et avoir des engagements.
Oui. Oui, puis il faut aller au-delà du rêve, puis des phrases creuses, des élections, mais se doter de moyens réels et concrets, d'avoir des plateformes concrètes. Puis nous, ben, on va inviter l'ensemble des partis politiques à prendre des actions et des mesures concrètes pour le réseau. Reste à voir maintenant là, si les bottines vont suivre les babines une fois les élections passées.
Voilà, c'était Mathieu Lessard, président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. Là, on parlait de cette coalition là, des partenaires en éducation. Il est 16h43 dans un instant. Pierre Paquette.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, épicerie Forêt, dépanneur Voisin Joliette et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonissoir Shell, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonissoir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Youhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah-hey! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
C'est le moment de célébrer en grand à la cabane à sucre Alcide Parent. Pour lancer la saison du temps des sucres, une soirée exceptionnelle vous attend le 28 février avec le groupe festif Les Campagnards. Formule soupe et spectacle, 60 $. Spectacle seulement, 37 $. Un bon repas, une ambiance chaleureuse et un spectacle entraînant pour une soirée mémorable. Réservez dès maintenant au 450-756-2878 sur la page Facebook et aussi possible sur le site web. Réservez votre place dès maintenant. On vous attend en grand nombre à la cabane à sucre Alcide Parent.
La saison déroule pour gagner est en cours. Une vague de prix déferle chez Tim, incluant des expériences VIP SiriusXM, des billets du Cirque du Soleil et des cartes cadeaux Simons. Jouez sur le gobelet et sur l'appli jusqu'au 22 mars. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Chez nous, ce n'est pas juste des véhicules que vous trouvez. C'est une équipe qui vous accompagne à chaque étape avec des conseils clairs et un service qui fait la différence. Que ce soit pour l'entretien, vos questions ou vos besoins particuliers, Joliette Nissan est là pour vous. Pendant l'événement Maîtriser toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour profiter de nos services rapides et de nos conseils d'experts. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre.
Salut.
Sondage Palace Data QC 125, l'actualité, les libéraux qui commencent sérieusement à chauffer le Parti québécois.
Oui, mais ça fait déjà quelques sondages qu'on a vu une remontée des libéraux, là.
Puis je pense qu'avec l'avenue de M. Milliard, ça va se confirmer. Mais en même temps, une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut se rappeler que Pablo Rodriguez aussi, quand il est arrivé, ça avait permis de monter, puis après, ça s'est effondré. Là, c'est sûr que je pense pas que le scénario va être identique, mais une fois que M. Milliard va commencer à dire des choses, ben il y a du monde qui va s'apercevoir que, malheureusement, il fait partie du Parti libéral, et donc, il est obligé de défendre certaines positions qui sont souvent contre la majorité francophone. Alors, je pense que ça va... ça montre quand même que le PQ voit ses appuis diminuer légèrement. Mais moi, à mon avis, ça c'est pas encore une annonce que les libéraux vont être un danger pour le PQ. D'autant plus que le vote des libéraux est concentré dans la région de Montréal. On voit très bien quand on regarde... les sondages par région. À part la région de Montréal, ben toutes les autres régions, le PQ est nettement en avance. Chez les francophones, il est à 37%, alors que globalement, il est à 30%, alors que le PLQ est à 18%. Alors, ça veut dire que beaucoup de circonscriptions vont aller au PQ, même si la différence en termes d'appui et pas si importante que ça.
On dit dans le Palace d'Attal, là, dans la revue de l'actualité, que le potentiel de croissance des libéraux demeure limité pour le moment là, en raison de leur retard auprès des électeurs francophones. Exactement. Donc, on pense surtout en région. Bon, pour vous donner les chiffres clairement, le Parti québécois perd 4 points à 30 % maintenant. Et le Parti libéral, plus 3 points, 27 % pour le Parti conservateur, on est stable à 16 % plus 3 % pour la CAQ, qui enregistre une certaine... remonter, peut-être que c'est évidemment le fait que dans l'actualité, la CAQ retient beaucoup l'attention ces derniers temps dans la course à la chefferie. La démission de François Legault aussi qui fait peut-être que ça a augmenté de 3 points pour la CAQ et c'est stable pour Québec solidaire à 10 %. C'est une chose qui est assez intéressante à observer aussi, Pierre, c'est dans la région de Québec, cette remontée du Parti conservateur, ça va bien pour les conservateurs dans la région de Québec puisque maintenant, dans la région de Québec, on place les conservateurs en tête avec 30 %, suivi du Parti québécois à 28 % et du Parti libéral à 20 %.
Oui. Ben ça, on avait vu ça aussi au cours des derniers sondages. Il faut se rappeler aussi que, dépendant de quel sondage on regarde, on n'a pas toujours les mêmes résultats. Alors ici, on a un Palace Data, on le compare au Palace Data, mais si on le comparait au Léger ou à d'autres sondages, on n'a pas nécessairement le même portrait. Mais il est clair que dans la région de Québec, le Parti conservateur du Québec attire beaucoup, particulièrement chez les jeunes, c'est ce qu'on a pu voir, surtout dans la sous-région, si je peux m'exprimer ainsi, de Chaudière-Appalaches. Alors, oui. Souvent, on parle de la grande région de Québec, de Québec, mais Québec est un peu à part du reste de la couronne, particulièrement de Chaudière-Appalaches. Et c'est là où je pense que le Parti conservateur va chercher le plus d'appui.
En fait, on parle de la région de Québec, mais c'est ça, c'est exactement parce que tu parles de Chaudière-Appalaches qui inclut la Beauce, mais Québec, c'est la banlieue de Québec où le Parti conservateur performe. Québec, centre-ville, c'est le Parti québécois qui est en avance, qu'on peut voir dans les chiffres généralement. Là. Et c'est difficile pour Québec solidaire là, avec 10 %. J'ai l'impression qu'on va se retrouver là avec QS, peut-être avec deux députés.
C'est sûr que là... Actuellement, ils sont pas dans la course. Et c'est assez étonnant de voir que c'est pas étonnant tant que ça. C'est-à-dire qu'une partie des électeurs qui votaient pour la CAQ peuvent pas aller du côté du PQ parce qu'ils sont fédéralistes et ils sont conservateurs. Et donc, ils se retrouvent plus facilement au Parti conservateur. Ils quittent la CAQ. C'est rare qu'on va partir du PQ pour se rendre jusqu'aux libéraux. Mais il peut arriver qu'on parte du PQ pour se rendre jusqu'au Parti conservateur.
Bon, en terminant, Pierre, souveraineté, l'opposition à la souveraineté là, qui est à son plus haut niveau en 2 ans, 60 % des gens voteraient non à un référendum sur la souveraineté.
Oui, ben j'ai vu, ça c'est ma, disons que ce soit 60 ou 55, je pense que le problème est le même pour le PQ puis pas Saint-Pierre-Plamondon. Mais on a vu que tout de suite après l'élection partielle de Chicoutimi, il s'est repositionné, ce qui me semble être une bonne affaire, c'est-à-dire, oui, on veut tenir un référendum dans le premier mandat, mais on le fera pas contre les intérêts du Québec, contre les intérêts des Québécois, contre la sécurité économique, la sécurité point des Québécois. Ça, je pense que c'est un bon discours, parce qu'il a tout à fait raison. 4 ans, c'est long, là. L'élection va avoir lieu dans 6 mois. Peut-être que Trump sera plus là. peut-être que la conjoncture mondiale va être différente et peut-être qu'à l'intérieur de ce 4 ans-là, il y aura une ouverture, une fenêtre qui va s'ouvrir pour un référendum. Mais je pense que la bonne position, c'est de dire on veut en tenir un dans le premier mandat, mais on le fera pas à n'importe quel prix.
Et je retiens cette parole que j'ai pu voir aujourd'hui, que j'ai pu entendre de Philippe Léger d'une autre firme de sondage, la firme de sondage Léger, qui disait que Paul Saint-Pierre Plamondon devra gagner le débat sur la peur.
Oui, ben c'est sûr, mais ça a toujours été le cas. Mais en 95, on a failli gagner. Alors, moi, je ne jette pas la serviette. Mais en même temps, je veux pas non plus qu'on aille dans le mur. Alors, je me rappelle très bien, par exemple, que M. Parizeau voulait tenir le référendum au printemps 95 et beaucoup de monde trouvait qu'il était trop tôt. Et on a réussi à le convaincre de reporter ça à l'automne 95. Alors, je pense que du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a quand même plus de latitude que M. Parizeau peut en avoir.
Oui, il faudrait qu'il patiente un petit peu, Paul Saint-Pierre Plamondon et les troupes péquistes. Merci beaucoup, Pierre. Pierre, merci. Qui, comme tout bon étudiant du secondaire, sera en semaine de relâche la semaine prochaine, parce que Pierre étudie encore au secondaire.
Je suis un étudiant permanent, moi.
Oui, c'est ça. Pierre qui sera en congé pour la semaine de relâche. On va se retrouver donc dans une semaine et demie, Pierre.
Merci, Claude.
Salut.
À dans 10 jours.
Bye. Oui, bye-bye. Merci à nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. François Morin, Pierre Jubinville, ainsi que Pierre Paquette, ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. Nicolas Bellemare s'amène dans les prochaines minutes pour vous présenter le 5 à 7 trad. Entre-temps, Hugo Valiquette et La vie dans la Naudière. Bye-bye.